Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous appelons ce deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du bon pasteur, et l'Église a bien choisi ces deux beaux textes, premier de l'Épître de Saint-Pierre et deuxième de l'Évangile selon Saint-Jean, qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est le bon pasteur, pas simplement pasteur, il est bon pasteur. Il est pasteur de quoi? Il est pasteur des âmes. On voit très bien l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ a pour toute sa création. Surtout, évidemment, pour la création rationnelle, pour la création raisonnable, la création qui a une âme raisonnable. On voit dans l'Évangile comment notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, a un amour tout particulier, d'abord pour les enfants. Tant qu'il a dit plusieurs fois, « Laissez venir à moi les petits-enfants, si vous ne devenez pas... » comme un enfant, mais vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Même les apôtres n'ont pas compris au début, ils ne comprenaient pas, ils cherchaient à éloigner les enfants. À chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ ramenait les petits à lui. Il aime aussi les pauvres. On le voit partout dans l'Évangile, comment notre Seigneur Jésus-Christ s'est occupé surtout de ceux que la société officielle, je dirais, rejetait de loin. Il aimait aussi tout particulièrement, bien sûr, les malades. Les malades dans leur corps, hein, ils sont beaucoup occupés des lépreux, des paralysés, des boiteux, des sourds, des aveugles. Mais il y avait une tranche de personnes pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait un amour tout particulier, c'était les pécheurs. Et surtout les gros pécheurs. S'il y a une personne que le bon Dieu aimait plus que les autres, c'était les gros pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord venu pour eux. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, j'irais, avait un amour tout particulier pour les gens qui avaient le plus besoin de lui. Strictement parlant, je dis bien strictement parlant, très sainte Vierge Marie n'avait pas autant besoin du bon Dieu qu'un gros pécheur qui ne pouvait rien faire sans l'aide du bon Dieu. Très sainte Vierge Marie n'avait pas le péché originel. Donc en soi, elle avait moins besoin du bon Dieu. Certes, le bon Dieu aimait plus sa sainte Vierge que tous les autres hommes, bien sûr, mais parce qu'elle était sa mère. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour ceux qui ont plus besoin du bon Dieu. Et ça, une fois qu'on a compris ça, ça doit nous donner une confiance extraordinaire en lui. Parce que précisément, lorsque nous sommes tentés de nous dire, ben, moi je suis un gros pécheur, j'offense le bon Dieu tout le temps, peut-être que le bon Dieu va finir par avoir honte de moi, mais pas du tout, c'est tout le contraire. Précisément parce que nous sommes pécheurs, le bon Dieu, qui sait que nous avons plus besoin de lui que les autres, va exercer sa miséricorde sur tout notre égard. Et donc ceux qui devraient aimer le plus le bon Dieu sont justement les convertis, les pécheurs repentants, les gens qui, avec la grâce du bon Dieu, ont changé de vie complètement. Parce que le bon Dieu a manifesté davantage sa miséricorde à l'égard de ces personnes qu'à l'égard d'autres personnes. Deuxième point qui me semble très important dans ce texte, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien, je reprends le texte, je donne ma vie pour mes brebis. Il n'est pas simplement pasteur des âmes, il donne sa vie pour les âmes. Et Saint-Pierre précise que nous avons été sauvés, nous avons été guéris par les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement quelqu'un qui se contente de nous créer ensuite, qui du haut du ciel assiste à nos bêtises. Il se revêt de notre humanité, il va mourir pour nous sur la croix le Vendredi Saint, précisément pour nous guérir par ses plaies. C'est par ses plaies que nous avons été guéris, c'est un terme très fort de Saint-Pierre et qu'il utilise en sachant parfaitement ce qu'il écrit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour ses brebis, on dit bien qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour ses brebis? Pourquoi est-il obligé de donner sa vie pour ces brebis qu'il a créées? Tout simplement parce qu'il y a malheureusement dans le péché un caractère d'infinité. Le péché c'est quoi? C'est le refus de Dieu, c'est aversio Deo conversio ad creatura, dit saint Thomas. Ça veut dire se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Donc à chaque fois que je commets une faute grave, ben j'ouvre la porte de mon âme, je mets le bon Dieu dehors, et par la même porte que le bon Dieu vient de franchir pour quitter mon âme, je fais rentrer quelqu'un qui va prendre la place du Dieu. Donc dans le péché grave, il y a la malice d'un péché d'apostasie, un péché d'idolâtrie. J'adore une fausse créature, j'adore exactement un faux Dieu. Et comme l'adoration d'un faux Dieu représente quelque chose d'infini, parce qu'on rejette un être infini qui est Dieu, eh bien, il faut un être infini pour rattraper un péché infini. Un péché d'une gravité infinie, plus exactement. Et c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ intervient. Et donc, par ses plaies, il répare nos âmes, il guérit nos âmes. C'est pour ça qu'il a voulu avoir, si vous voulez, le corps complètement couvert par les meurtrissures de la Passion, justement, pour pouvoir rattraper chacune des... Je dirais chacun des cinq sens, puisqu'on pêche avec tous nos sens, avec tout notre corps. Mais le bon Dieu a voulu que tout son corps soit marqué des plaies de la Passion. Et il faut, je pense que la meilleure façon de comprendre l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, c'est précisément de contempler un crucifix, le crucifix au-dessus de l'autel. C'est en contemplant ce crucifix qu'on comprend l'amour du bon Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il faut souvent présenter le crucifix aux fidèles et le crucifix partout dans les églises, précisément à cause de ça. Et c'est très beau de voir, par exemple, une maman qui explique le crucifix à un enfant. Les enfants de nos familles non catholiques, quand ils voient un crucifix, ils sont sidérés, ils regardent le crucifix et ils disent, mais maman, pourquoi le monsieur est accroché à une croix? Et c'est là, on peut faire tout un cours de catéchisme en expliquant, il est accroché à une croix, regarde, il a des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Voilà. Et puis il a aussi une couronne sur la tête, et puis il a un cœur qui est percé par le coup de lance. Et là, on explique. Il explique qu'il est cet homme, et à moitié, il est homme et Dieu, les deux à la fois. Et il est mort pour toi et pour moi sur la croix, pour justement nous racheter. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir les pieds crucifiés. Donc il y a un clou, les mains crucifiées, il y a un clou qui va passer par ses deux poignets, justement, pour rattraper tous les péchés qu'on a fait avec les mains. Et puis les pieds ont été crucifiés aussi pour rattraper tous les péchés qu'on fait avec les pieds quand on fait des choses, quand on va dans les lieux qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ou dans lesquels on n'a pas le droit d'aller comme catholique, on pêche avec nos pieds. Il a son cœur percé parce que. Il veut rattraper tous les mauvais amours, toutes les personnes qu'on a aimées, qu'on n'a pas aimées, qu'on aurait dû aimer, toutes les personnes qu'on a aimées trop, qu'on n'aurait pas dû aimer à ce point-là, toutes les personnes qu'on a mal aimées. Donc il a son cœur percé. Et il a autour de la tête, dans le siège de l'intelligence, il a sa couronne d'épines, justement, pour nous rappeler, justement, qu'il faut rattraper aussi tous les péchés de l'intelligence. Chaque fois que je refuse d'utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai, je gaspille mon intelligence avec des choses secondaires. Je pêche contre le bon Dieu. Et c'est là, il faut vraiment méditer cette phrase. Ses plaies nous ont guéris. On a été guéris par les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il faut voir l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort et qu'il est au ciel avec un corps glorieux, où peut-on justement maintenant accéder à cette passion? Ben, c'est par la messe. C'est pour ça que la messe est quelque chose de tellement important dans l'Église. C'est vraiment le point central, le pivot sur lequel tout le monde va tourner, le monde entier va tourner, si vous voulez, le Saint-Sacrifice de la messe, qui est le renouvellement non semblant du sacrifice de la croix. Et lorsque nous assistons à la Sainte Messe, eh bien, au moment où les paroles de la consécration, eh bien, c'est exactement le même sacrifice qui se renouvelle, c'est la même victime, c'est exactement le même Dieu qui s'offre dans son humanité, uni à sa divinité, et lorsque je communie, je reçois exactement le même Dieu, donc il faut pouvoir assister à la Sainte Messe avec les mêmes sentiments qui devaient être dans le cœur immaculé de Marie, lorsqu'elle assistait à la messe de Saint-Jean. Pendant toute sa vie, la Sainte Vierge, après la mort du Christ, est restée avec Saint-Jean, elle assistait à la messe de Saint-Jean tous les jours. Imaginez la dévotion avec laquelle la Sainte Vierge Marie devait assister à la Sainte Messe du dernier des apôtres, Saint-Jean. Et elle devait avoir une... Parce que pour elle avait parfaitement compris tout ça, donc à chaque fois qu'elle assistait à la messe de Saint-Jean, elle devait revivre la passion du Christ de façon extraordinaire, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc toute la première partie, c'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au calvaire, puis la mort sur la croix qui est représentée, qui est bien parfaitement actuée en quelque sorte par la double consécration, qui rend véritable, qui rend réelle la notion de sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ est sacrifié sur la croix, c'est pour ça qu'il y a une séparation entre les deux consécrations. Vous bien montrer la séparation, non pas physique, mais la séparation sacramentelle entre le corps d'un côté et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de l'autre. Il y a encore bien des choses à dire sur ces évangiles. Un autre point qui me semble très important, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ prie en demandant qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Pour bien nous montrer qu'il faut appartenir, il faut être membre de ce troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir le suivre au ciel. Et comment appartenons-nous à ce troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ? Par le baptême. Parce que le baptême marque notre âme, exactement comme un propriétaire de brebis va marquer chaque brebis avec sa marque particulière, pour qu'elle ne se mélange pas au troupeau des autres. Et de la même façon, notre âme est marquée par le caractère du sacrement de baptême. C'est pour ça qu'il y a un caractère dans le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et sans avoir cette marque, ce caractère du baptême, on est créature de Dieu, bien sûr. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. On n'est pas des enfants de Dieu. C'est ça qu'il faut penser à remercier le bon Dieu de cette grâce d'être baptisé. Pensez aux milliers de personnes, millions de personnes dans le monde qui ne seront jamais baptisées, qui n'auront jamais connaissance du baptême et qui n'appartiennent pas au troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé sans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il faut bien réaliser cela et je dirais vivre dans l'action de grâce. Pour savoir remercier notre Seigneur Jésus-Christ de toutes ses grâces, nous ne pensons pas assez, à mon avis, à remercier le bon Dieu pour la grâce du baptême. Notamment, la plus grande grâce de notre vie, c'est la grâce du baptême qui fait réellement de nous des enfants de Dieu. Et le bon Dieu, de même que le bon Dieu attire à lui les petits-enfants, il attire à lui maintenant tous ses enfants. D'abord les enfants qui sont déjà dans son troupeau, et puis tous ceux qui ne sont pas dans le troupeau. Ok, qu'il y a un seul troupeau et un seul pasteur. Et c'est là où intervient l'apostolat missionnaire de l'Église, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que tous ceux qui sont à l'extérieur du troupeau puissent venir dans le troupeau et aussi participer aux grâces de la Passion. C'est pour ça que notre Seigneur envoie les missionnaires dans le monde entier, par son Église, pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Et une dernière remarque, une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est une petite phrase dans l'épître de Saint-Pierre. Saint-Pierre nous fait remarquer que nous sommes des brebis errantes sans pasteur. C'est un peu le cas pour nous aujourd'hui. Nous sommes des brebis errantes sans pasteur parce que malheureusement, Dieu sait si c'est une situation pénible pour nous, nous sommes orphelins d'autorité puisque malheureusement, depuis la mort du pape Pie XII, les pasteurs ont disparu. Au lieu de s'occuper de notre Seigneur Jésus-Christ, s'occuper d'amener les brebis à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont agi comme des mercenaires. Comme des mercenaires, et dès que le loup est arrivé, ils sont enfuis, ils ont abandonné le troupeau, et du coup, nous dit l'Évangile, le loup rentre dans le troupeau, s'empare de certaines brebis, mange certaines brebis, et puis disperse toutes les brebis. Et nous sommes comme des brebis errantes sans pasteur. Alors, il faut se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le pasteur de nos âmes, et que même si actuellement dans l'Église, malheureusement, nous sommes orphelins d'autorité, nous avons toujours une autorité devant nous, à savoir l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est surtout à cause du fait que nous n'avons plus d'autorité humaine au-dessus de nous, malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église catholique, et Dieu sait si nous devons en souffrir, mais il nous faut nous accrocher à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc faire ce que l'Église a toujours fait pendant 20 siècles, tout simplement. Puisqu'il n'y a plus de pape pour nous diriger, nous indiquer le bon chemin, nous indiquons où sont les bons pâturages à rechercher, les mauvais pâturages à éviter, mais il faut s'accrocher. Qu'est-ce que l'Église catholique a toujours fait? Et donc reprendre les textes anciens de l'Église, tous les textes du magistère, et se contenter de garder fidèlement toutes ces choses-là. La vertu de fidélité et la vertu de protection aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont fidèles justement à ce que l'Église catholique a toujours fait, eh bien, peuvent se maintenir dans le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, dès qu'on commence à quitter l'enseignement traditionnel de l'Église, eh bien... on quitte notre Seigneur Jésus-Christ, on quitte son troupeau. Rappelez-vous de ces magnifiques textes, surtout de Saint Pédis, qui disait bien que l'amour des nouveautés est le premier signe par lequel on peut reconnaître un hérétique. Le premier signe par lequel on peut reconnaître un hérétique, c'est de l'amour des nouveautés. Et au contraire, il faut qu'un catholique ait un amour débordant de la tradition. Et Saint Pédis s'exclamait, loin de nous catholiques, l'esprit de nouveauté. Parce que l'esprit de nouveauté, justement, ça insinue, si vous voulez, qu'il faut que l'Église catholique s'adapte au monde moderne. Ce n'est pas l'Église catholique qui s'adapte au monde moderne, ce monde moderne s'adapte à l'Église catholique, tout simplement. Et si le monde moderne refuse de s'adapter à l'Église catholique, eh bien le monde moderne va mourir. Voir un petit peu ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'Église, vous savez bien, il y a eu 14 millions de masses martyrs d'après Darras, et ces 14 millions de masses martyrs, ils n'ont jamais cherché à adapter l'Église au monde dans lequel ils vivaient. Ils vivaient dans un monde barbare, un monde paganisé, un monde dans lequel la charité avait complètement disparu, n'avait sans doute jamais existé. Eh bien, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, ça leur a coûté suffisamment cher, ils ont tous passé la casserole, hein. Sauf Saint Jean, demain, c'est la fête de Saint Jean à la Porte Latine, c'est le martyr de Saint Jean. C'est qu'il a été jeté dans à Rome, alors qu'il célébrait la Sainte Messe, il a été pris par les Juifs et jeté dans un énorme chaudron d'huile bouillante. Et son bréviaire, l'histoire de sa vie, raconte qu'il, non seulement il n'est pas mort, mais qu'il est sorti, il avait rajeuni. L'huile bouillante avait rajeuni Saint-Jean. Alors du coup, il a été envoyé en exil et il est mort dans son lit. C'est l'apôtre qui n'est pas mort martyr directement, mais il a eu le bénéfice du martyr, tout le mérite du martyr, parce qu'il aurait dû mourir lors de ce châtiment qui lui avait été imposé par les Romains. Alors demandons justement à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir cette force des martyrs et d'être des témoins. Un martyr, c'est quoi? C'est un témoin. Alors, le bon Dieu peut-être ne nous demandera pas le martyr physique, mais il nous demande de témoigner notre foi catholique, même si on vit dans un monde complètement perdu, un monde qui se moque complètement du bon Dieu. Eh bien, il faut témoigner par notre façon de penser, notre façon de nous comporter socialement, familialement, professionnellement, pour être la lumière du monde et celle de la terre. Et pour cela, il faut bien sûr suivre l'exemple de notre Sainte Vierge Marie, qui a montré justement ce qui n'a jamais eu le moindre doute sur la divinité de son Fils et qui savait très bien, elle plus que tous les autres, elle savait très bien qu'il n'y avait absolument jamais besoin d'adapter la doctrine de son Fils au monde moderne. Alors demandons toutes ces grâces de lumière, ces grâces de paix, ces grâces de force dont nous avons besoin pour un jour pouvoir tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.